Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Deuxième visite chez l'évêque de Juan Diego. Le jour suivant, dimanche, 10 décembre, Juan Diego quitte la maison avant l'aube et prend le chemin. Il y entend la messe et assiste à l'instruction à l'église Saint-Jacques. Après que les ministres, suivant leur habitude, eurent compté les fidèles originaires de chaque paroisse, Juan Diego, vers 10 heures, se rend rapidement au palais épiscopal pour obéir au désir de la Vierge Marie. Il essaye ardemment de voir l'évêque. Après beaucoup de difficultés, il parvient à le rencontrer. Il s'agenouille à ses pieds et au milieu des pleurs, demandant qu'on croie à son message et aux demandes de la Dame du Ciel. D'édifier un temple à l'endroit où elle l'a vu et lui a parlé. Il lui redit la même chose. L'évêque l'écoute plus attentivement et commence à le croire. Et pour s'assurer davantage du simple récit du fait, il lui pose question sur ses affirmations, lui demandant où il a vu et comment elle est. Il décrit le tout à la perfection à l'évêque. Dit et sur les signes entourant la dame qui l'envoie. L'évêque veut voir s'il raconte la même chose. Il reconnaît par ses signes qu'il ne peut s'agir ni de songe ni d'intervention de la part de l'Indien. Mais il veut acquérir une plus grande certitude au sujet de cette affaire. Il n'a pas de difficulté à croire, malgré les descriptions précises de Juan Diego sur l'apparence de la dame et tout ce qu'il a vu et admiré, indiquant qu'il est convaincu que c'est bien la Sainte Mère du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. L'évêque lui fait remarquer qu'il ne suffit pas qu'il le lui dise pour qu'aussitôt il mette en œuvre ce qu'il requiert. Il lui demande enfin de dire à la dame qu'il envoie, de lui donner quelques signes pour l'aider à conclure que c'est bien la Mère de Dieu qui l'envoie. Juan Diego dit alors à l'évêque, « Monseigneur, écoutez, quels signes voulez-vous ? J'irai le demander à la Dame du Ciel qui m'a envoyé vers vous. » Voyant que l'évêque acquiesce, qu'il ne doute ni ne vacille, Juan Diego se retire. Alors il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'évêque. Mais l'évêque est soucieux de la vérité. Alors il appelle deux personnes de son entourage en qui il a le plus confiance. Il leur commande d'observer de près Juan Diego et de le suivre sans le perdre de vue. Au fond, il les envoie pour qu'ils suivent Juan Diego. Et peut-être verront-ils et entendront-ils eux aussi la même chose. Alors Juan Diego part directement en suivant l'allée qu'il connaît. Les serviteurs se mettent à le suivre, sans se laisser voir et sans le perdre de vue. Mais dès que Juan Diego arrive au pont de Tepeyac, il disparaît de la vue des serviteurs. Ceux-ci le cherchent en toute diligence, de tous côtés. Ils ne le retrouvent pas. Et ils s'en retournent, non seulement parce qu'ils sont fatigués, mais aussi parce que leurs desseins sont déjoués et ils ne sont pas contents. Et c'est ce qu'il raconte à l'évêque. Pour l'influencer, ils lui disent que Juan Diego le trompe et invente ce qu'il raconte, ou qu'il a rêvé ce qu'il dit et demande. Il lui conseille de ne plus le croire, et que si jamais il revient, il soit retenu et sévèrement puni, afin qu'il cesse de mentir et de tromper. Alors ils sont fâchés, parce que ils ont manqué à ce que l'évêque leur demandait. Suivez-le de près. Ils l'ont perdu de vue. Troisième apparition de la Vierge. Aussitôt que Juan Diego, qui allait son chemin, arrive au sommet de la colline, alors les serviteurs, eux, ne l'ont pas trouvé, ou en tout cas, n'ont pas réussi à le suivre, eh bien, Juan Diego, lui, continue sa route, et il arrive au sommet de la colline, autour de 17 heures. Il y trouve la Sainte Vierge, qui l'attend avec la réponse à son message. La Sainte Vierge lui demande de revenir le lendemain au même endroit, et lui dit « Très bien, mon enfant, tu repartiras là-bas afin de porter à l'évêque un signe certain par lequel il te croira, et dans son regard il n'y aura ni doute ni soupçon. Et sache, mon fils, que je te récompenserai pour ta sollicitude, tes efforts et ta fatigue à mon égard. Allons, va maintenant. Demain, je t'attendrai ici. » Juan Diego promet obéissance et la salue poliment. Mais là, il va se passer quelque chose. Sur le chemin du retour, l'esprit tout occupé par sa dame, Juan Diego se réjouit du signe qu'il devra porter à l'évêque le lendemain, lundi, pour qu'on le croie. Mais il n'y retournera pas. À son arrivée chez lui, il trouve un de ses oncles, du nom de Juan Bernardino, qui a 73 ans, un oncle qu'il aime profondément, qui lui servait de père depuis son enfance, qui est gravement malade, rongé par de la fièvre. Ému de son état, Juan Diego passe une grande partie de la journée en quête d'un médecin. Alors il s'occupe de son oncle, alors il court partout pour trouver un médecin, pour qu'on lui administre un remède. En ayant trouvé un, il le conduit au malade, à qui il applique quelques médecines. Mais il est déjà trop tard, et l'état du patient empire. Ça va pas bien. À la tombée de la nuit, Juan Bernardino, l'oncle, supplie alors son neveu de se lever de bonne heure, avant le jour, et d'aller au couvent de Saint-Jacques pour appeler un religieux, afin de se confesser et de le préparer, car il est certain qu'il ne se lèvera plus, ne guérira pas et qu'il va mourir. Alors toute la journée de ce lundi 11 décembre, Juan Diego bouge que pour son oncle. L'histoire de la Vierge Marie est en second plan. Alors, il va au plus pressé. Le mardi 12 décembre, quatrième apparition de la Vierge. Juan Diego part de sa maison en toute hâte, dans le but d'appeler un prêtre pour son oncle, qui est malade, et de revenir avec lui en lui servant de guide. Le jour commence à poindre. Il arrive vers 6 heures à l'endroit où il doit gravir le sommet de la colline du côté de l'est, toujours la colline où il rencontre la Vierge Marie, le Tepeyac. Comme il s'approche de la route qui passe au pied de la colline vers l'ouest, et où il a l'habitude de traverser cette route, il se dit « Si je continue sur ce chemin, la dame va sûrement me voir, et je peux être retenu pour recevoir le signe et aller le porter à l'évêque comme convenu. Mais mon premier devoir est d'aller rapidement appeler un prêtre, car mon oncle l'attend avec impatience. » Aussitôt, il fait un détour et grimpe par le milieu de la colline et, se dirigeant vers l'est, il sort pour arriver rapidement à Mexico afin que la Dame du Ciel ne le retienne pas. Vous imaginez? Il juge qu'en prenant un autre sentier qui passe au pied de la colline, elle ne le verra pas et ainsi ne le retardera pas alors qu'elle voit parfaitement en tout lieu. Au fond, Juan Diego est tellement pris par l'histoire de la maladie grave de son oncle, du prêtre qu'il a demandé pour se confesser avant de mourir, que il met vraiment, vraiment de côté. Vous voyez, il passe près de l'endroit, il se faufile, il se cache, il veut pas que la dame le voie. Alors il va contourner le pied de la colline lorsqu'il voit venir à sa rencontre la Sainte Vierge qui était en train de l'observer. Elle descend du haut de la colline, entourée d'une nuée blanche et avec la clarté qu'il avait vue la première fois. Arrivée au bas de la colline, elle s'approche de lui et lui dit « Qu'y a-t-il, le moindre de mes fils ? Où vas-tu ?» Juan Diego s'arrête, confus, craintif et honteux. Il se met à trembler. Il s'incline devant elle, la salue et lui dit « Ma chère enfant, ma toute petite, j'espère que vous allez bien. Comme vous êtes matinale, est-ce que votre santé est bonne ? Ne soyez point peinée ni contrariée de ce que je vais vous dire. Sachez, ma petite fille, qu'un de vos serviteurs, mon oncle, est très malade. Une grave maladie le tient couché. Il est sur le point de mourir. Je vais en hâte à l'église appeler un prêtre aimé de Dieu pour qu'il vienne le confesser et le préparer. Vous savez que nous naissons tous sujets à la mort. Après avoir accompli cette démarche, je reviendrai rapidement en ce lieu pour accomplir votre demande, madame, ma jeune fille. Je vous prie de me pardonner et prenez patience avec moi pour le moment, ma petite fille, mon enfant. Et il n'y a pas de feinte dans l'excuse que je vous donne. Demain, je viendrai en toute hâte. » Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur.
J'ai trouvé. C'est quand il a cessé de rire avec moi, de jouer avec moi.
Petit Jean vit graduellement l'amour se refroidir dans son cœur, jusqu'à devenir révolte. Il avait dû s'arracher aux douceurs de l'insouciance, de la joie gratuite, et passer cruellement du monde de l'enfance au monde des grands, des responsabilités, de tout ce qu'il faut faire pour plaire. Une quantité de faits et gestes apparurent aussi brutalement dans le cœur de Petit Jean que le souvenir de la distance qui s'était peu à peu créée entre lui et son père. Les jeux avaient été renversés. Petit, son père l'avait porté sur ses épaules. Il était son ami, presque son idole. Puis il avait fallu descendre, descendre là où les exigences du père l'étoufferaient, avec la contraignante perspective de devenir comme lui, un homme.
C'est comme si un jour, c'était lui qui s'était placé sur mes épaules, pensait-il. Mais moi, j'étais encore trop petit, et lui, trop lourd.
Le soleil tombait lentement et allait bientôt se cacher derrière la montagne. Un long tunnel venait d'être traversé, et il voyait une lumière nouvelle qui le pacifiait et le rendait heureux. Un peu malgré lui, il avait trouvé la clé de cette porte fermée depuis si longtemps, et à laquelle la dame de la montagne avait osé frapper. Une dernière fois, il retourna à la rivière. Dans l'eau, son visage avait perdu un peu de clarté au soleil couchant, mais il se voyait toujours distinctement. Pour la première fois, il eut le sentiment d'aimer son visage, et surtout son regard, qui lui rappelait celui de son père, lorsqu'ils jouaient ensemble. Il se mit à sourire et dit « Un jour, je serai père. Jusqu'à 100 ans, s'il le faut, j'aurai des épaules pour jouer.
je courrai, sauterai, rirai. » Puis, il soupira avec nostalgie. « Papa, je peux monter sur tes épaules ?»
Remontant de la rivière jusqu'à la montagne, il s'étonna de tout ce monde intérieur qui bougeait en lui. Il commençait à voir plus loin qu'un arc et des flèches. Derrière la montagne, le soleil était disparu. Déjà, les premières étoiles s'étaient montrées. Dans la brunante, la petite chaumière lui paraissait chaude avec les lumières aux fenêtres. Il ouvrit doucement la porte, mais sans entrer. Il s'assit sur le seuil, le regard tourné vers l'extérieur, contemplant le paysage qui s'endormait peu à peu. La dame de la montagne devina bien qu'il s'était passé quelque chose dans le cœur de Petit-Jean. Discrètement, elle s'approcha de lui et, gardant le silence, elle regardait aussi la nuit qui montait. Petit-Jean osa parler. « Je regarde en avant maintenant. »«
C'est beau en avant. »
Il ne répondit pas.
C'est souvent la dure vérité en avant, Petit-Jean.
Un long silence suivit cette phrase. Puis Petit-Jean reprit.
« Tu as toujours aimé ton père, toi ?»«
Non. » »«
J'ai arrêté de l'aimer parce que je croyais qu'il ne m'aimait pas. »« Et il t'aimait ?»«
Oui. » »«
Et toi, tu ne le voyais pas ?» Il ne le disait pas, ou il le disait mal. Mais comment as-tu su qu'il t'aimait? Il a fallu que je me perde.
Te perdre?
Un jour, je me suis perdu en forêt, incapable de retrouver mon chemin. Cela a duré des jours et des nuits, un véritable cauchemar. On te recherchait? Tout le village. Pendant ces jours et ces nuits, inlassablement m'a cherché. Et puis, c'est mon père qui m'a trouvé. Je n'oublierai jamais ce moment. En me voyant, il se mit à pleurer. Puis, comme je n'avais plus aucune force pour marcher, il me prit dans ses bras. Je devais avoir 14 ans. Je n'étais plus une enfant. Les gens nous entouraient et pleuraient aussi, dans un mélange de joie et de souffrance. Mon père me transporta lui-même jusqu'à la maison. Sans force, épuisé, je m'étais abandonné entre ses bras. Là seulement, je sus qu'il m'aimait. Oui, je crois, plus que lui-même.
La gorge de Petit-Jean s'était brusquement serrée, émue. Il retenait ses larmes. Elle continua.
Il m'a trouvé, mon père, Petit-Jean. Moi, je l'avais perdu. Faut-il toujours se perdre pour apprendre que l'on nous aime? Pas toujours. Mais c'est un chemin, comme le miroir. Mais pourquoi le miroir? Le miroir est brutal. Il ne cache pas la vérité, même si on s'en sert pour masquer, camoufler et même se refaire de faux traits. Le miroir dépiste aussi bien ceux qui s'aiment trop que ceux qui se détestent, tu comprends?
Petit-Jean découvrit lentement le sens de ces paroles. Il regardait sa blessure à la main.
Ton visage, c'est ton histoire, ton passé, ton présent et ton avenir. Mais pourquoi on ne l'aime pas, son visage? Parce qu'il nous ramène à d'autres visages, ceux qui sont si près de nous. La révolte, voilà ce qui fracasse le miroir.
Petit-Jean écoutait toujours et revoyait en pensée son visage dans le miroir de la rivière.
Il sourit simplement et dit « Il faut réapprendre à se regarder ». À aimer ce visage que nous n'aimions plus. Et ce visage, c'est le nôtre, Petit-Jean. C'est le seul que nous ayons et que nous garderons toute notre vie. Si tu te regardes dans le miroir avec sérénité, la paix se réalisera sur le visage des autres. Elle te dira ce que tu ne savais plus, qu'ils sont beaux, que tu es beau, que je suis belle. »
Bougeant péniblement sa main blessée, il grimaça et conclut.
« Je crois que j'y arriverai. »
La dame de la montagne sourit. Dans le ciel tout noir, une moisson d'étoiles brillait dans le silence qui enveloppait la montagne. Le vent jouait dans les grands arbres et les poules dormaient. Il se tourna subitement vers elle et lui demanda
« Et ta mère, elle ?»«
Ma mère ?» Je n'ai jamais connu son visage. Elle est morte en mes mains. Puis elle se dirigea vers sa chambre. Elle y resta un moment pour en ressortir avec une photographie dans ses mains. S'approchant de Petit Jean, elle la lui montra.
« C'est toi ? » fit-il.
« Non, c'est elle. » Il fallait donc regarder en avant, avec son vrai visage. Il découvrait soudain tout un univers de pensées, et lui semblait presque avoir changé de taille au-dedans. Les choses se présentaient autrement. Dans une sorte de bonheur, il commençait à aimer, à s'aimer peut-être. Tout faible dans son croissant lumineux, la lune s'était à nouveau levée. Dans sa fragilité, Petit Jean la regardait. Le sommeil allait bientôt venir, mais une dernière fois, il fit bouger sa main blessée. L'escalier avait maintenant une marche de plus. C'est elle qui le réveilla ce matin-là.
« Il n'y a plus de pain, mon garçon !»
Il aurait voulu dormir encore. Il se sentait là, fatigué. Mais elle répétait
« Il n'y a plus de pain !»« Tu sais faire le pain, Petit Jean ?»«
Non, mais je peux apprendre !»
S'étant levé, il était sorti dehors pour respirer à plein poumon le jour levant. Des papillons dansaient au-dessus des fleurs et les poules avaient repris leur éternelle rengaine. Arrivé à leur enclos, il remarqua qu'elle manquait d'eau et se rendit au puits en chercher. La dame de la montagne se réjouissait des initiatives de Petit Jean. Mais lorsqu'il fut rentré,
« Il n'y a plus de pain !»
Bougeant avec peine sa main blessée, il répondit un peu désemparé.
« Je ne peux rien faire avec cette main-là. »
« Et la montagne, elle ?»«
Comment, la montagne ?»«
Que feras-tu lorsque tu graviras la montagne ? Foudroyé par les intempéries, blessé par les inévitables chutes et le vertige des ravins, sans oublier le monde des bêtes qui attend ?»
Toujours embarrassé, Petit Jean fit bouger sa main blessée et dit
« On peut attendre pour le pain ?»«
Si tu ne manges pas, c'est d'accord. »
Il avait faim. Il ne savait que faire et tournait bêtement en rond en regardant sa fameuse blessure.
Comment allait-il se débrouiller pour faire le pain ?
Un gant, peut-être ?
Sa main gauche suffirait-elle ?
Tu m'aideras ?
En parole, je ne touche à rien. Il n'eut aucune difficulté à mettre les ingrédients sur la table. Farine, œufs, eau, car il n'y avait ni vache ni chèvre sur la montagne pointue. De la main gauche, il se trouva assez habile pour la farine, les œufs cassés et l'eau qu'il mélangeait de son mieux, la main droite derrière le dos. On eût dit qu'il avait honte de cette main. La dame de la montagne donnait les consignes, mais le moment arriva où il fallait pétrir. C'était l'impasse.
« Peux-tu m'aider pour pétrir ?»«
Je peux t'encourager. »«
Mais il me faut une autre main ?»«
Et tu n'en as qu'une. »« Alors laisse tout sur la table. »« Nous mangerons lorsque tu en auras deux. »«
Je ne peux quand même pas pétrir cette pâte avec ma blessure qui n'est pas guérie. »«
Pourquoi pas ?»«
Tu t'imagines ?»«
Mourons de faim, Petit Jean, mais tu guériras. »
Il sentit la rage l'envahir et s'écria « Maudite main !»
Il aurait voulu quitter la chaumière,
mais il sentit que cette conduite serait ridicule, insensée. « Tu veux que j'enfouisse ma blessure dans cette pâte ? Et le sang, lui ?» Impatient, Petit Jean la regarda avec force et plongea ses deux mains dans la pâte. « Eh bien, voilà !»«
Tu sais bien travailler, mon garçon. Tu sauras gravir la montagne. Ta faim te poussera en avant, plus loin que la peur de tes blessures. » Il fut étonné de voir que sa blessure ne lui causait rien de fâcheux. Au contraire, la farine lui servait presque de gant, et il n'avait plus de douleur. Le voyant pétrir, elle ajouta « Le pain guérit la faim, Petit Jean, et le travail, les blessures de la vie. » Le pain avait cuit. Il était encore chaud sur la table. Petit Jean était fier, car il avait réussi. Mais il fallait attendre encore avant de pouvoir le manger. Or, l'appétit de Petit Jean s'était bien creusé, et l'odeur qui se répandait dans toute la petite chaumière ne l'aidait pas. Regardant la dame de la montagne, il demanda « Il y a des gens dans la montagne ?»«
Oui, beaucoup de gens. »«
J'en verrai ?»«
Tout le long du parcours, Petit Jean. » »«
Mais jamais personne ne m'a dit qu'il y avait du monde sur l'impossible. D'où viennent-ils »«
Ils viennent de toi. » Tous ceux et celles que tu portes en toi et qui ne cesseront de t'accompagner durant ta difficile montée. » Il saisissait davantage le sens de tous ces visages qui avaient bougé en lui ces derniers temps. Le pain était maintenant prêt et Petit Jean se préparait à le briser lorsque la dame de la montagne intervint.
« Tu n'oublies rien ?»«
Quoi donc ? Il est grand temps qu'on le mange ? Il est prêt ?»
C'est toi qui n'es pas prêt, mon garçon.
Si tu savais comme j'ai faim,
Petit Jean, on ne mange jamais le pain sans penser.
Penser ? À quoi ?
Au blé qui a poussé, à la terre qui l'a porté, au soleil qui l'a mûri et à la pluie qui l'a fait boire.
Petit Jean fut touché par ces mots simples qui l'appelaient au respect. Il écoutait.
Ça ne vient pas tout seul, le pain. Il aura fallu aussi tes mains et le feu pour le cuire. Puis elle prit les mains de Petit Jean et les ouvrit en disant « Tes deux mains et cette blessure aussi. » Il y eut un moment de silence. La dame de la montagne avait fermé ses yeux, tandis qu'il la regardait en laissant ses mains ouvertes. Soudain, il dit sur le bout des lèvres « Je pense à Dieu. » Elle ajouta lentement « Je pense à Dieu. »